Bonjour. Nous continuons dans notre série dans le Deutéronome. Mais est-ce que vous vous souvenez du verset phare que nous mémorisons en ce moment? Je vous le rappelle, je vous offre le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie afin que vous viviez, vous et vos descendants. Deutéronome 30, 19. Si ce verset résume un peu le Deutéronome, c'est que cette idée de choix entre la vie et la mort revient à plusieurs reprises dans le livre. Et notre passage d'aujourd'hui n'est pas une exception. Il s'agit du chapitre 4, les versets 9 à 20. Il est question d'idole. Regardons donc le passage, c'est Moïse qui parle aux Israélites. Seulement, veille attentivement sur toi-même et garde-toi bien d'oublier les événements dont tu as été témoin. Qu'ils restent gravés dans ta mémoire pour tous les jours de ta vie et informe-en tes fils et tes petits-fils. En particulier, n'oublie pas ce jour où tu t'es tenu devant l'Éternel ton Dieu au mont Horeb, lorsque l'Éternel m'a dit « Assemble ce peuple devant moi et je lui communiquerai mes paroles afin qu'il apprenne à me craindre tous les jours de sa vie sur la terre et qu'il l'enseigne à ses enfants. » À ce moment-là, vous vous êtes approché du pied de la montagne et vous vous êtes tenu là alors qu'elle était embrasée d'un feu qui montait jusqu'au ciel, cernée de ténèbres et d'épais nuages. L'Éternel vous a parlé du milieu du feu, vous avez entendu ses paroles, mais vous n'avez vu aucune forme. Il n'y avait qu'une voix. Il vous a révélé les clauses de son alliance, ce qu'il vous ordonnait d'observer, à savoir les 10 commandements. Puis il les a écrites sur 2 tablettes de pierre. En même temps, il m'a ordonné de vous enseigner des commandements et des lois que vous devrez appliquer dans le pays où vous vous rendrez pour en prendre possession. Vous prendrez bien garde à vous-même, car vous n'avez vu aucune forme le jour où l'Éternel vous a parlé au mont Horeb du milieu du feu. N'allez pas vous corrompre en vous fabriquant des idoles, des figures ou des représentations quelconques, d'après le modèle d'un homme ou d'une femme, ou le modèle de quelque animal vivant sur la terre, celui d'un oiseau volant dans le ciel, ou celui d'un animal qui se meut à ras de terre, ou encore d'un poisson nageant dans les eaux plus bas que la terre. N'allez pas lever les yeux vers le ciel, regarder le soleil, la lune, les étoiles et tous les astres du ciel pour vous laisser entraîner à vous prosterner devant eux et à leur rendre un culte. L'Éternel votre Dieu a laissé cela à tous les peuples qui sont sous tous les cieux. Mais vous, l'Éternel est allé vous chercher. Il vous a arraché à cette fournaise de fer qu'était l'Égypte, pour faire de vous son peuple, celui qui appartient comme vous l'êtes à présent. Je trouve la logique de ce passage assez intéressante. Moïse explique que Dieu leur a parlé, mais ils n'ont vu aucune forme. Ils ont seulement entendu la voix de Dieu. Donc, il ne faut pas se fabriquer de formes ou d'idoles à adorer. Alors, pourquoi Dieu n'a pas de forme visible? Bon, peut-être que Dieu le Père aura une forme visible lorsque nous serons au ciel directement auprès de lui, mais pour nous, aujourd'hui, Dieu n'a pas d'apparence physique, parce qu'il est bien au-delà de toute apparence physique. Il est trop grand et trop glorieux pour être contenu dans une apparence physique. ce serait le réduire que de chercher à lui donner une apparence physique ou visible. Et si nous avions des images de Dieu, notre compréhension de Dieu serait réduite aux simples qualités de ces images-là, au détriment de toutes les autres qualités de Dieu. Une image physique est beaucoup trop limitée pour représenter Dieu. Mais ici, il n'est pas seulement question de ne pas d'essayer de ne pas représenter Dieu physiquement. Il y a une interdiction claire de se fabriquer des idoles et de les adorer. Mais c'est quoi une idole au juste? Voici un temple hindou. Alors, est-ce que c'est ça? Des idoles, toutes ces espèces de statues collées sur les toits de ce temple? Oui, mais pas seulement. Et ça, les grandes stars de nos jours, on parle quand même des dieux de la scène. Est-ce que c'est ça, les idoles de notre monde occidental du 21e siècle? Oui, mais je pense qu'on peut chercher plus loin encore. En Ézéchiel 14, Dieu parle au prophète et dit quelque chose d'intéressant au sujet du peuple d'Israël. Il dit « Ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur. » Ah, ça, c'est intéressant. Les idoles se portent dans le cœur. Tim Keller, auteur chrétien très connu, a justement écrit un livre intitulé « Les idoles du cœur » et je m'en suis beaucoup inspiré pour ce message. Bon, je reviens à ma question. C'est quoi vraiment pour nous une idole, bon, dans le cœur? Keller évoque trois critères que je trouve très intéressants. Nous aimons les idoles, nous faisons confiance aux idoles et nous obéissons aux idoles, plus qu'à Dieu. Bon, regardons un peu ces trois éléments. Une idole peut être quelque chose ou quelqu'un que nous aimons plus que Dieu. Alors, quand je dis aimer plus que Dieu, c'est quand même beaucoup plus subtil qu'on pourrait l'imaginer. Je pense qu'on ne va pas dire « j'aime plus ma femme, j'aime plus mon mari, j'aime plus mes enfants » que Dieu, ça va être plus subtil que ça. Est-ce que nous prenons autant de temps à nous investir dans notre relation avec Dieu que ce que nous investissons dans notre relation avec notre conjoint? Alors comprenez-moi, moi qui suis responsable d'un ministère couple, je ne suis absolument pas en train de dire « réduisez votre relation avec votre conjoint, passez moins de temps ensemble ». Non. Je parle plutôt d'augmenter la qualité de temps passé avec Dieu, par exemple. Ok, deuxième possibilité. Une idole peut être quelque chose dans laquelle nous plaçons notre confiance plus qu'en Dieu. Alors, en bas de la vidéo, vous avez un lien vers une autre vidéo très intéressante. C'est une pub pour une banque sur Internet qui est très percutante. Donc, vous descendez, vous verrez dans le descriptif de la vidéo, lien pub, et vous pourrez donc visionner cette vidéo. Jetez un coup d'œil, c'est très intéressant. Dans la vidéo, on dit « c'est l'argent qui décide ». Et ça, c'est faire confiance à l'argent plus qu'à Dieu. Est-ce que je trouve ma sécurité personnelle dans ma situation financière? Est-ce que je n'ai pas d'inquiétude parce que j'ai un bon travail et j'ai une bonne épargne? Bon, regardons la question sous un autre angle. est-ce que la raison principale qui dicte qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je ne peux pas faire, est-ce que c'est l'argent? Dans notre ministère d'Agapé, nous sommes face à cette question régulièrement. Je pense à un projet où on a amené un groupe d'étudiants français en Afrique. Alors, est-ce que votre première réaction face à un tel projet serait « mais non, ça va à la tête », amener 20 personnes de la France en Afrique, mais non, ça coûte trop cher. Bon, troisième possibilité, une idole peut être quelque chose à laquelle on obéit plus qu'à Dieu. Il y a quelque chose qu'on pourrait appeler l'idolâtrie politique. Bon, voilà un point de vue biblique. Le problème principal du monde, de la société, c'est le péché, et la solution, c'est Dieu et sa grâce. Alors, voici un point de vue idolâtre du même type. Quelque chose d'autre que le péché est le problème principal de la société, et quelque chose ou quelqu'un d'autre autre que Dieu est la principale solution. Et ça a tendance à démoniser quelqu'un ou quelque chose qui n'est pas tout mauvais et à élever au rang de Dieu ou d'idole une personne, une chose qui n'est pas parfaitement, ultimement bon. Lorsqu'on identifie une personne ou un groupe comme le grand méchant et le gros problème de la société, comme c'était le cas des Juifs pour les nazis, et qu'on dit qu'un groupe ou une personne, c'est la solution, le sauveur de la société, comme Hitler et le parti nazi, ça, c'est de l'idolâtrie. Une idéologie, mot d'ailleurs cousin à l'idolâtrie, peut aussi être une idole. Une philosophie ou un système politique est parfois élevé au rang de Dieu. Cela arrive quand on pense qu'une philosophie ou un système a toutes les réponses à tous nos besoins. Mais le problème est que les systèmes de pensée sont inventés par des êtres humains qui sont limités et imparfaits. Le meilleur des systèmes humains, le meilleur et le plus équitable des démocraties, ne peut jamais combler tous nos besoins et faire complètement disparaître l'injustice, par exemple. Keller dit « Les idoles sont des choses bonnes et nécessaires qui sont devenues des dieux. » Comme pour beaucoup de domaines dans la vie, les choses mauvaises, malsaines, destructrices sont très fréquemment des choses bonnes qui ont été exagérées. L'apôtre Paul donne un résumé très intéressant de l'idolâtrie. Il dit en Romains 1, 25, « Oui, ils ont délibérément échangé la vérité concernant Dieu contre le mensonge. Ils ont adoré la créature et lui ont rendu un culte au lieu du créateur. » Pour moi, c'est la vraie question à se poser. Est-ce que j'accorde à une créature, c'est-à-dire une personne ou une chose, une importance ou un pouvoir que seul le créateur devrait avoir? Keller dit aussi que l'homme doit avoir une idole. Enfin, j'explique. C'est plutôt que nous, les êtres humains, on ne peut pas se passer de quelqu'un ou quelque chose que nous aimons, en qui nous plaçons notre confiance et à qui nous obéissons. Nous ne pouvons pas nous empêcher d'adorer quelqu'un ou quelque chose. Nous sommes fabriqués ainsi. Alors, l'objet de notre adoration peut être Dieu ou peut être une personne ou une chose. C'est pour ça qu'une idole ne se détruit pas vraiment. Elle se remplace par Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? Bon, je vous donne un exemple. Imaginons que, en réfléchissant, je me rends compte que je place beaucoup trop de confiance en ma situation financière. J'y trouve ma sécurité personnelle. Imaginons que j'ai un bon salaire et une bonne épargne, mais il y a plan social dans mon entreprise et mon emploi pourrait être menacé. La stabilité de ma situation financière est mise en question et je prends peur. Je deviens très inquiet. Je dors pas la nuit. Alors, comprenez-moi, c'est normal de s'inquiéter si son emploi est menacé, mais moi je parle de panique et de désespoir. J'en conclus que ma situation financière est devenue une idole. Mais ça ne suffit pas pour que j'essaye de désidoliser ma situation financière. Je dois remplacer cette idole avec Dieu en développant ma confiance en Dieu pour ma sécurité personnelle et matérielle. Je dis bien développer, pas seulement décider. Alors, bien sûr que ça commence avec la décision que je ferai confiance pour ma stabilité et ma sécurité personnelle. Mais c'est un cheminement avec Dieu, même une croissance avec lui, de pouvoir dire vraiment que je place ma confiance pour ma sécurité en Dieu. Alors, imaginons que tout allait bien. Pas de plan social, pas de problème financier. Est-ce que mon travail, ma situation financière, pourrait toujours être une idole ? Peut-être. Une question à se poser. Est-ce que j'estime, plus ou moins, que j'ai un super travail grâce aux super études que j'ai faites ? Et est-ce que je me trouve quand même un peu doué dans le domaine où je travaille et que je me dis, c'est grâce à ça que j'ai un super boulot ? Je cite à nouveau l'apôtre Paul qui donne une mise en garde contre ça. 1 Corinthiens 4, 7. Car qui te confère une distinction ? Qu'as-tu que tu n'as pas été donné ? Et puisqu'on t'a tout donné, pourquoi t'en vanter comme si tu ne l'avais pas reçu ? Tout ce que nous avons, notre intelligence, nos dons, les domaines où nous sommes très capables, etc., tout ça vient de Dieu. Reconnaître Dieu comme source de toutes ces choses dans notre vie, c'est remplacer cette idole avec le Seigneur. Bon, une dernière chose qui peut être une idole pour nous, le contrôle. Nous voulons tous avoir le contrôle de notre vie, enfin de la plupart des choses qui arrivent dans notre vie. Mais nous avons appris, surtout avec la crise sanitaire, que nous contrôlons bien peu de choses. Jacques aborde cette question dans son épître au chapitre 4, les versets 13 à 15. Et maintenant, écoutez-moi, vous qui vous dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. Savez-vous ce que demain vous réserve? Ça, c'est une question très pertinente pour nous aujourd'hui. Qu'est-ce que votre vie? Une brume légère, visible quelques instants, qui se dissipe bien vite. Voici ce que vous devriez dire. Si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Je pense que nous avons tous compris que nous ne pouvons plus nous rendre dans telle ville et passer tant de temps avec les personnes que nous voulons. Donc cette idole du contrôle est en train de s'écrouler devant nos yeux. Mais nous avons besoin, quand bien même, de faire cette démarche auprès de Dieu, de lui exprimer notre confiance et de lui dire que finalement, il est la seule solution pour nous. Bon, en résumé, pour reconnaître une idole est quelque chose que nous aimons, une chose en qui nous plaçons notre confiance et une chose à qui nous obéissons. Et pour nous débarrasser d'une idole, elle se remplace pas tout à fait, elle se détruit pas tout à fait, je veux dire, elle se remplace avec Dieu. Prions. Seigneur, aide-nous à reconnaître nos idoles, aussi subtiles soient-elles, et aide-nous à les remplacer avec toi, le seul vrai roi de notre vie. Amen.